France Inter.
Aujourd'hui, la vie sociale des haies, racontée par
Léo Magnin, sociologue au CNRS.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Depuis 1994, se dresse au bord de la départementale 53, entre Mont-sur-Vent et Géfosse, dans la Manche, un étrange menhir en granit de 9 mètres de haut. Il ne s'agit pas d'un vestige gaulois, ni d'une œuvre d'art abstrait, c'est un hommage à une bataille souvent oubliée, celle des haies, des chemins creux et des paysans attachés à leurs terres. Le monument national à la nature et aux hommes victimes des remembrements, c'est son titre, est l'œuvre du sculpteur François Davin. Il renvoie à une époque pas si lointaine, où la politique foncière du gouvernement avait pour objectif de rationaliser l'espace agricole en s'imposant à marche forcée. Les haies accusées d'entraver les machines sont arrachées sans ménagement, mais les habitants résistent, certains éleveurs refusent ce qu'ils perçoivent comme une dépossession. La lutte devient politique. Ce combat local s'inscrit dans une histoire bien plus vaste. Dès la fin du 19e siècle, l'agriculture française commence en effet sa transformation industrielle. Le paysan devient agriculteur, la faux laisse place au tracteur, les terres sont réorganisées, redessinées, standardisées. Après la Seconde Guerre mondiale, la modernisation s'accélère, la politique agricole commune, la mécanisation et les logiques de rendement font table rase du passé. Au cours du XXe siècle, 1 400 000 km de haies, 70% du bocage ont été détruits. Face à ce saccage organisé, des voix s'élèvent. Et dès 1968, dans leur ouvrage « Il était deux fois », les sœurs Benoît et Flora Groult décrivent avec colère ce paysage martyrisé. « La France, écrivent-elles, devient chauve. Il n'aura bientôt plus entre Paris et Quimper que des terrains découverts. Tout le pays breton est saccagé. Les haies éventrées et passées à la moulinette, les arbres renversés la tête en bas, les jambes en l'air, leurs jupes de feuillage retroussées, sans respect pour leur dignité. Les haies deviennent donc des corps profanés, des paysages de l'enfance, des champs de ruines. 20 ans plus tard, le naturaliste François Terrasson pousse plus loin encore l'indignation, parlant de racisme anti-végétal et d'apartheid entre les espèces. Et pourtant, ce qui fut hier un obstacle à l'utilisation rationnelle du sol devient aujourd'hui un atout écologique. En quelques décennies, la haie a retrouvé son statut de rempart et de refuge pour les oiseaux, de corridor pour les insectes et de régulateur climatique. Elle est redevenue essentielle. On la replante, on la protège, on l'enseigne même. De nouveau, elle semble tracer des lignes de vie dans les paysages. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Léo Magnin.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci d'être avec nous, vous qui publiez aux éditions de La Découverte « La vie sociale des haies », enquête sur l'écologisation des mœurs. Ce thème des haies, il faut le dire au départ, ça a été votre sujet de thèse.
Tout à fait, qui était un peu une surprise parce que je ne partais pas pour enquêter d'abord sur les haies. Je travaillais sur la santé et la santé mentale des agriculteurs et revenais souvent à la politique agricole commune, la PAC, dans les entretiens que je menais. Et en débroussaillant un peu cette PAC qui est pleine de sigles extrêmement divers, et sophistiqué, je me suis dit, je vais me focaliser sur les haies, parce qu'au moins tout le monde voit ce que c'est, et une réforme administrative ne va pas changer un sigle, donc je pourrais travailler sur quelque chose qui va demeurer, y compris dans le paysage, qui a l'air simple, mais en fait on va voir que c'est plus compliqué que ça.
Lorsqu'un sociologue comme vous décide de s'attaquer à un sujet comme ça, qu'est-ce qu'il a envie de mettre au centre de son enquête, puisque c'est une enquête
hein ? Moi ce qui m'intéresse, c'est de montrer que le minuscule contient le majuscule, de prendre un objet qui est apparemment anodin, voire insignifiant.
Donc la haie.
La haie, là en l'occurrence. Et de montrer qu'en fait, dans cet objet, il y a des grandes thématiques, des grandes tendances, des grands processus sociaux et historiques qui se déploient et qu'on peut les retrouver avec les outils de la sociologie.
Dans quelle région est-ce que vous avez commencé à entendre parler des haies précisément ?
Alors j'ai commencé à entendre parler des haies dans les entretiens avec des éleveurs de bovins principalement, dans les Combrailles. Les Combrailles, c'est entre le Puy-de-Dôme et l'Allier, là, pour l'endroit où j'étais exactement. Et elles revenaient décriées parce que protégées par la fameuse politique agricole commune depuis 2015, alors même que je menais mon enquête à ce moment-là quand je la débutais.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles obtiennent un statut juridique clair et donc protecteur dans la loi. Et ça, vous le dites, à quel point c'est un événement marquant, ça, cette rupture de 2015 ?
Oui, on peut le voir comme une forme d'aboutissement si on regarde tous les textes de droit qui encadrent les haies. En fait, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les années 50, un mouvement qui les définit comme des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol.
Ouais.
Et puis, dès les années 70, à la faveur des effets des premiers remembrements que vous citiez aussi dans votre chapeau, eh bien, on a des réglementations qui intègrent le paysage dans l'activité agricole et le droit de l'environnement qui se développe aussi dans les années 90-2000. Et là, ce qui est nouveau en 2015, c'est que ça passe dans la PAC, c'est-à-dire dans le cœur de la loi qui encadre l'activité agricole ouais. et les aides qui sont associées.
Qu'est-ce qui a provoqué justement l'irruption de cette loi protégeant les haies tout d'un coup en 2015 ?
Bonne question. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une forme d'évidence, puisqu'il y a une progression dans ces textes de loi, et tout naturellement, on pourrait se dire que ça arrive dans le droit agricole. En fait, c'est pas ça qui s'est passé.
Ouais.
D'abord, c'est une raison budgétaire. La France a été condamnée par la Commission européenne pour avoir versé des aides de manière indue aux agriculteurs, parce que la carte sur laquelle on calcule, à partir de laquelle on calcule les aides données aux agriculteurs, n'était pas assez précise. Et donc, face à ça, la décision du ministère a été d'enlever les haies de la surface payée, primée, éligible aux aides agricoles, ce qui a suscité une levée de boucliers, à la fois chez les syndicats agricoles, ouais. tous confondus, et chez les défenseurs du bocage. Et pour faire face à cette levée de boucliers, le ministre a décidé de conserver les haies comme étant payées en tant que surface, à condition de les protéger pour faire en sorte que cette mesure soit acceptée par l'Union européenne.
On parlera d'ailleurs du comptage, hein, parce que c'est assez amusant, vous en avez écrit un petit passage justement dans votre ouvrage. Les haies sont vues désormais, donc, on le disait aussi, comme des réservoirs de biodiversité, des remparts contre plein de choses, hein, l'érosion des sols, des corridors écologiques, des outils aussi de régulation climatique. Est-ce qu'il y a un vrai consensus sur la question ou pas ?
Sur les fonctions écosystémiques des haies, oui. Scientifiquement, c'est un champ de recherche qui est doté de résultats, et ce, depuis au moins les années 70. La première table ronde pluridisciplinaire, c'est en 1976 sur les bocages.
Ouais.
Donc ça, c'est tout à fait prouvé. Et il y a toujours des fonds de recherche qui demeurent, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est cette dynamique où ces nouvelles fonctions, qui sont parfois très anciennes, hein, par exemple protéger le bétail du vent froid ou de la chaleur, elles viennent aussi remplacer d'anciennes fonctions qu'on a oubliées et qui remplissaient des besoins, qui satisfaisaient des besoins dans les foyers agricoles.
Comment est-ce qu'il faut comprendre le sous-titre de votre livre ? Alors, l'écologisation des mœurs.
Oui, alors, c'est
ça
un
ça fait mot... référence à quoi ?
Alors, ça fait référence, en fait, d'abord à un terme de juriste qui désigne des transformations dans les politiques publiques, dans la réglementation. L'écologisation, pour eux, c'est donc des Suisses, des Canadiens, pour eux, ce sont des transformations qui intègrent dans des politiques qui ne sont pas environnementales, des critères environnementaux. Donc, on peut écologiser les transports, la culture, l'agriculture. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est de questionner le rapport entre cette transformation réglementaire et les transformations des pratiques, des manières de vivre, des habitudes qu'on a chacun, chacune au quotidien, et de voir s'il y a des liens, des interactions entre ces deux pôles.
Et c'est aussi un clin d'œil à un autre sociologue quand même.
Tout à fait. Hein un certain Norbert Elias, qui est un grand sociologue, un classique pour nous dans la discipline, et qui lui parlait de la civilisation des mœurs, un grand processus, et il étudie ce processus en s'intéressant aux manières de vivre, encore une fois. Et lui aussi, donc je prends l'inspiration chez lui de trouver le majuscule dans le minuscule.
C'est ça, le petit objet, donc la haie, et de pouvoir l'illustrer, en tout cas le comprendre à une échelle macro. Hein,
c'est ça, lui prend l'exemple du mouchoir, ouais. et à travers l'exemple du mouchoir, il montre comment il y a un processus sur la très longue durée de transformation de nos rapports à notre corps, au corps des autres, à notre propre agressivité.
Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux sociologiques sur l'écologie d'ailleurs ? Parce que vous dites qu'il y a beaucoup de choses en philosophie, beaucoup moins en sociologie ?
En fait, les travaux existent. Ils existent en géographie, ils existent en histoire, ils existent en sociologie, donc en sciences sociales empiriques. Par contre, ils sont dans des revues, ces travaux. Des revues spécialisées, évaluées par les pairs. Ils sont beaucoup moins en librairie. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, sur la question environnementale, si on va dans les étagères de la librairie à côté de chez nous, eh bien, on voit qu'on a plutôt affaire à des discours philosophiques assez normatifs. Il faut faire ceci, changeons nos rapports à l'environnement, ce qu'il faut faire, et c'est très bien. Mais là, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de prendre un peu de recul, de décrire précisément un objet, plutôt que de parler de l'environnement d'un point de vue abstrait, et de proposer une réflexion sur ce sujet-là.
Donc aussi d'en faire un objet littéraire, d'une certaine manière, hein, et de pouvoir trouver aussi ce sujet-là en librairie. On va écouter une archive de 1964. L'homme que nous allons entendre s'appelle Paul Matagrin. Il est agronome, il porte bien son nom, de l'École nationale supérieure agronomique de Rennes. Et voilà ce qu'il disait sur les haies à cette époque.
Tout le monde connaît la haie et le bocage de nos régions. Il fallait restructurer nos exploitations dans la région et, de ce fait, faire disparaître un grand nombre de talus boisée qui borde habituellement ce champ clos si particulier à la région de l'Ouest.
N'y aurait-il pas des conséquences graves à les supprimer complètement, monsieur le directeur ?
Certainement, il y a les conséquences très importantes de tous ordres, mais nous ne connaissons pas exactement la limite à laquelle nous devrons arrêter ces destructions.
Quels seraient ces inconvénients ?
Ces inconvénients sont d'abord d'ordre climatique. Il s'agit d'abord de l'eau, du régime des eaux qui est contrarié. Il s'agit de l'érosion du sol dont nous avons déjà constaté les effets. Il s'agit également, et d'une façon beaucoup plus générale, d'une rupture de l'équilibre biologique ancestral de nos régions.
Alors ça, c'est 1964, Léo Magnin. C'est quand même intéressant, parce que monsieur le directeur, là, ce qu'il nous dit, ce qu'il pose comme question, ce sont des questions très modernes, dont on parle beaucoup aujourd'hui, beaucoup moins quand même à l'époque.
Exactement, et si elles sont posées, c'est qu'on voit les conséquences d'un arasement total des talus et des haies, notamment en Bretagne, parce qu'à cette époque-là, dans les années 60 et 70, c'est ce qu'on appelle les remembrements table rase.
Ouais.
Donc on transforme très substantiellement le paysage et l'espace, et ce qui pose des problèmes d'eau, de qualité de l'eau, de circulation de cette eau, notamment, mais aussi donc d'aspect esthétique, de transformation des milieux de vie.
Donc c'est-à-dire que très vite, on a les premiers effets sur l'arrachage de ces haies.
Ce qui donne la table ronde dont je parlais tout à l'heure en 76, là, sur les bocages, qui en fait est organisée pour répondre à ces effets du remembrement.
Est-ce que le remembrement, d'ailleurs, concerne tout le territoire ? Parce qu'on parle beaucoup de la Bretagne, qui a été une terre très marquée, évidemment, par ces opérations politiques de remembrement, mais ça a été le cas partout en France ou pas ?
Non, c'est très important à rappeler. En effet, si on regarde une carte qui a été éditée par Thibaut Preux, un géographe, on voit que le remembrement concerne à peu près une moitié de la France, et c'est même un peu moins en réalité, car il y a plusieurs cantons qui ont été remembrés plusieurs fois, jusqu'à trois fois successives, bien souvent.
Ouais.
Et il y a une vraie disparité entre ces territoires qui ont connu plusieurs remembrements et des territoires qui n'en ont pas connu, ce qui ne veut pas dire que dans les territoires il n'y a pas de remembrement, il n'y a pas de disparition de haies.
Léo Magnin, vous êtes notre invité, on se retrouve dans un instant pour explorer donc avec vous cet objet sociologique que sont les haies, et vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans le conseil municipal, on a quand même une sensibilité à l'environnement et à notre biodiversité autour du village. On avait un chemin qui longeait des champs et il n'y avait pas du tout d'ombre le long de ce chemin. Et on s'était dit, ce serait peut-être pas idiot de mettre en place une haie qui à la fois permettrait de limiter les écoulements d'eau pour éviter le ruissellement trop important et puis ça nous permettrait aussi peut-être plus tard d'avoir un peu d'ombre le long de ce chemin pour les gens qui se promènent à pied. Et c'est parti comme ça ce projet, du coup on a planté cette haie, et c'est une haie qu'on a plantée avec les habitants du village. On a fait un chantier collectif, et c'était vraiment sympa, on a planté 150 mètres de haie, d'espèces différentes, locales, puis maintenant on attend qu'elles poussent.
Martin Daune, maire de Montmirail-le-Château, c'est dans le Jura, c'était en février dernier. Léo Magnin, vous qui publiez La vie sociale des haies aux éditions de La Découverte. Une réaction sur ce qu'on vient d'entendre ?
Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un objet de politique locale, cette plantation de haies. Dans un cours de mandat pour des élus locaux, parfois c'est aussi l'occasion de montrer qu'ils font des choses, c'est visible, et ça permet une participation aussi, et un regard à peine plus critique, souvent on parle des plantations de haies et très rarement des manières de les tailler, de les conduire, de les entretenir.
Oui.
Et c'est ce qu'on voit dans la presse, notamment locale. Souvent, c'est des écoliers qui plantent. Par contre, il est plus difficile de trouver des articles ou des communications sur le fait que des gens les entretiennent, puisque ça reste essentiellement des agriculteurs qui travaillent.
Oui. On parlait dans l'extrait là, des espèces différentes de haies, en fait. Il faut vraiment l'imaginer comme ça ?
Oui, alors, il y a les différentes espèces végétales qui la composent et ensuite différents types de haies. Le réseau Haies France avait fait une typologie, il y en a plus de 20, une haie différente entre juste un buisson par rapport à des arbres alignés.
Alors c'est ça, c'est quoi la définition au fond d'une haie ?
Alors tout dépend pour qui. Si on regarde la fameuse règle de la PAC dont on parlait tout à l'heure, pour la PAC, une haie c'est un linéaire qui est infranchissable, c'est-à-dire qui contient des arbustes ou des buissons de manière continue, et donc des haies qui n'ont pas cette caractéristique-là ne sont pas concernées et donc ne sont pas protégées par la politique agricole
commune. Comme les arbres alignés, par exemple.
Exactement.
Ouais.
Et ce qui est un effet de négociation politique qui est contenu en trace dans cette définition, parce qu'en fait, c'était un désaccord entre les syndicats agricoles d'un côté et les défenseurs du bocage de l'autre.
Léo Magnin, ce qui est vraiment intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est que vous expliquez à quel point la politique de remembrement des années 50-60 voulue par l'État était en réalité déjà précédée par une perte des haies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît ?
Le mot qui convient pour expliquer ce phénomène, c'est fossile. On a des géographes qui montrent que les haies sont des fossiles d'une civilisation. Louis Poirier, qui est plus connu sous son nom d'écrivain Julien Gracq, écrivait en 1934 « Le bocage est une forme de vie économique aujourd'hui fossile qui mourra d'une transformation sociale ». Vous voyez que c'était il y a bientôt 100 ans, donc bien avant l'apogée des remembrements dans les années 60-70, parce que les haies ne rendaient plus déjà les services qu'elles rendaient auparavant au 19e siècle.
Alors, quels services rendaient-elles et pourquoi est-ce qu'ensuite on a commencé déjà à s'en séparer?
Elle rendait des services très concrets. On peut penser par exemple à faire cuire de la poterie, par exemple des tuiles. Il y avait des grands fagots, des grands tas de fagots. On voit ça sur certaines photos du début du siècle pour alimenter les fours. Ça peut être aussi les fours à pain parce que les fagots permettent de monter très rapidement en température. Ça peut être
Donc on puisait en fait le bois.
Tout à fait.
C'est ça pour le brûler ensuite. Hein.
Exactement. Et il y avait aussi derrière des règles de baux, c'est-à-dire un bail des baux ruraux, parce que ça permettait de donner les petits bois aux locataires et le gros bois, le tronc, aux propriétaires. Donc, mmh. Il y a aussi une structure sociale derrière ça. Et en fait, ces fonctions-là, parmi lesquelles la première, qui est celle d'enclore un territoire, hein, une haie, c'était d'abord une clôture, en fait, vont être supplantées par d'autres artefacts, d'autres objets, d'autres ustensiles. Prenons l'exemple de la clôture. Le barbelé, bien sûr. Ouvrait l'émission sur un barbelé, qui est sur l'œuvre d'art que vous mentionniez, et par le fil électrique ensuite. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse. Alors qu'avant, une haie devait être travaillée, exploitée, conduite, on dit plessée, c'est-à-dire qu'elle était tressée, en fait, c'était une sorte de vannerie vive pour en faire une clôture. Aujourd'hui, c'est bien parfois dans des barbelés qu'on voit des haies spontanément pousser. Donc c'est la clôture qui fait la haie. Qui fait la clôture.
Mais est-ce que déjà c'était au nom de la rentabilité agricole d'une certaine manière ou pas, avant le remembrement?
Alors, le mot de rentabilité, il est interrogé dans le sens où c'était pour des fonctions économiques, pas nécessairement de rentabilité, mais de ressources dans une économie qui était assez autonome, en tout cas tournée vers le foyer rural, qui n'était pas un foyer agricole, c'était un foyer paysan, un état d'être paysan avant d'être un métier. Et donc, c'est pour nourrir également aussi les animaux, le fourrage avec des feuilles de frêne, par exemple, pour trouver des noisettes pour faire de l'huile, etc. Donc, c'est pas en tirer un gain monétaire, mais plutôt des choses pour les besoins de tous les jours au quotidien.
Alors, ces haies, elles nous racontent des choses parfois assez contradictoires dans leur mise en œuvre. Vous dites que pour des raisons écologiques, il est nécessaire de conserver le bocage, mais toujours pour des raisons écologiques, qu'il est nécessaire de réduire par exemple l'élevage. Or, le recul de l'élevage, pâturant en tout cas, cause le recul du bocage. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, toute cette histoire, non ?
Oui, quand on parle d'écologisation, on a l'impression qu'il y a un sens qui est clair vers lequel il faut aller. En réalité, quand on prend un exemple concret, là, la haie, on voit que ce n'est pas si simple que ça. Si vous prenez la carte du bocage en France et la carte de l'élevage bovin, qui est celui qui est le plus pâturant, eh bien, abstraction faite des zones de montagne, les Alpes, les Pyrénées, vous voyez qu'elles coïncident. Or, les éleveurs sont la catégorie d'agriculteurs, les éleveurs bovins, qui ont le plus diminué dernièrement. Entre 2010 et 2020, ils sont devenus pour la première fois dans l'histoire du recensement agricole, deuxième après l'exploitation de grandes cultures. Alors, entre 2010 et 2020, on a perdu en moyenne 20% d'agriculteurs en France. Ça, c'est tout secteur confondu, tout type d'exploitation. Si on regarde l'élevage, c'est deux fois plus. Ce qui veut dire que là, il y avait 5 éleveurs en 2010. Il n'y en a plus que 3 en 2020.
Alors, ce petit objet, les haies, pour nous parler de choses un peu plus importantes, en tout cas, même si les haies sont évidemment très importantes, mais sur le social, par exemple, vous montrez les effets d'inégalité aussi. Est-ce que la défense des haies, d'abord, c'est une lubie un peu des amoureux citadins, des paysages ou des défenseurs de la nature? Comment il faut interpréter les choses aujourd'hui?
On trouve des travaux sociologiques qui montrent cette thèse-là, qu'il y a une domination des urbains, des personnes diplômées, qui transforment le paysage en décor touristique, mais les choses évoluent et on trouve aussi des travaux plus récents cette fois, qui ne sont pas dans les années 80 ou 90, mais actuellement, qui montrent que parmi les personnes qui souhaitent protéger des haies, on parlait d'un maire tout à l'heure, eh bien il y a des maires qui sont des ex-agriculteurs et qui sont concernés par ce sujet-là parce qu'eux-mêmes travaillaient ces haies-là et ne souhaitent pas que les agriculteurs qui prennent le relais les fassent sauter. Donc on voit que c'est beaucoup plus compliqué que simplement un groupe agricole qui serait homogène et dominé par des urbains qui ne connaîtraient rien.
Mais est-ce qu'on peut faire un parallèle quand même entre l'intérêt qu'on porte aux haies et la pratique agricole, justement, des personnes?
Oui, bien sûr, la haie est un objet agricole, ce qui fait que elles sont là pour des raisons agricoles originellement. Le principal acteur qui travaille ces haies-là, ce sont des agriculteurs. Et ces agriculteurs, ils sont aussi diversifiés que la société française.
Mais vous dites quand même, plus on porte d'intérêt aux haies, plus l'agriculteur est proche de l'agriculture durable. Oui. C'est une constante, ça ?
Alors, parmi
on peut en faire une généralité ou pas ?
Parmi les travaux que j'ai consultés et qui sont disponibles, notamment en sociologie et en géographie, on voit ça, que la haie peut faire office un petit peu de prisme ou d'indicateur du rapport à l'agriculture biologique, du rapport à l'agroécologie en général. Mais il faut le nuancer aussi, parce que ça peut être plus compliqué que ça.
On va écouter une autre archive, parce qu'elles sont nombreuses autour des haies et du remembrement, et celle-ci date de 1972.
Ce remembrement est néfaste pour la Vendée. Je vous ai dit tout de suite que les parcelles étaient très grandes et que nous les avions mises aussi grandes qu'il le fallait pour l'exploitation normale avec les instruments modernes comme les moissonneuses-batteuses, par exemple. Et par conséquent, toute haie détruite en plus va rompre complètement l'harmonie du bocage vendéen et d'autre part va transformer cette terre en un véritable désert aride qu'il sera impossible à voir.
Voilà, extrait d'une archive ORTF, La France défigurée, avec François Elie, propriétaire, donc en Vendée, Léomanien. Ça vous parle, cet extrait aussi ?
Oui, ça me parle, parce qu'il y a des travaux en Vendée de Christian Hongrois, un ethnologue du rural, qui a montré à quel point les haies étaient dotées de valeurs sociales. Par exemple, les conscrits, les personnes qui avaient 18 ou 20 ans au même moment, se donnaient un peu à cœur joie une sorte de concours de qui fera les plus beaux fagots, et en sanctionnant celui qui avait fait des mauvais fagots, en déféquant sur les fagots qu'ils trouvaient mal faits. Donc il y a toute une histoire de la respectabilité en Vendée par rapport aux haies.
Qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à la cartographie des haies en France, parce que ça c'est très intéressant aussi. Personne en fait en réalité avait fait le comptage, c'est ça, jusqu'à 2000-2006, c'est ça ?
En fait, on a des cartes, mais ces cartes, elles sont sur la base d'échantillons qu'ensuite on généralise. Et là, dans le cadre de la politique agricole commune, parce qu'on décidait de protéger ces haies, il fallait les cartographier pour pouvoir savoir si une haie qui était là en 2015 est toujours là en 2021, par exemple. Et pour ce faire, là on n'a plus une logique d'échantillonnage, mais de calque. Il faut qu'on ait une cartographie particulièrement précise, ouais, exactement, exhaustive. Ouais. Et les agriculteurs que je rencontrais au départ me disaient que ça avait été fait par des étudiants pakistanais. Donc je ne savais pas si c'était une légende. Et plus j'avançais dans mon enquête, et plus je trouvais que c'était vrai. Alors ça n'a pas été fait au Pakistan, c'était fait en Inde, en Tunisie, en Roumanie, en République tchèque. Mais ça a bien été fait par des petites mains.
Donc il y avait une expérience. Et on a demandé à ces personnes de venir en France pour le faire.
Alors, c'était envoyé là-bas, c'était sous-traité.
Ah, c'était envoyé là-bas.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un travail du clic, donc des micro-tâches répétitives et qui ne peuvent pas être faites par une machine, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, a fortiori aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et sa promotion. Non, ça a été fait par des humains, ça a pris plus de 2 ans à faire. Et si des agricultrices, des agriculteurs nous écoutent, mais ils savent que ça correspond à une période de retard des aides PAC qui justement était causée par l'impossibilité de clôturer la cartographie, c'est donc ça. D'instruire les dossiers de demande d'aide.
Ça a pris un an, 2 ans, parfois plus même.
Oui, ça a pris 2 ans et demi si on prend vraiment tout c'est le circuit.
Et donc maintenant, on a une cartographie exhaustive, réellement.
Alors,
ou pas ?
On pense qu'elle est exhaustive.
On a un Google Map des haies en France.
Oui, ça s'appelle la couche des SNA, les surfaces non agricoles. Mais pour être très précis, c'est pas exhaustif, par contre, on pense que c'est exhaustif, notamment dans l'administration. C'est-à-dire qu'une haie qui n'a pas été numérisée comme telle, c'est-à-dire qui n'a pas été dessinée, qui n'a pas son petit polygone sur un écran d'ordinateur,
elle
n'existe pas dans le cadre de contrôle, parce qu'on considère qu'elle n'a pas été recensée au bon moment.
Les haies sont devenues un objet politique aussi, on va le voir dans un instant avec vous, Léo Magnin, et puis vous répondrez aux messages, aux questions, elles sont très nombreuses ces questions, ces témoignages aussi sur franceinter.fr pour parler ensemble des haies cet après-midi.
Mathieu Vidard, la terre au carré.
Des kilomètres de talus brise-vent sont déjà tombés sous la dent des bulldozers. Et un jeune agriculteur affirme que ce n'est pas fini.
Ces talus ont une très grande importance, où la moindre perturbation atlantique devient pour nous une tempête.
Est-ce que vous croyez que c'est vraiment un saccage de la terre bretonne ?
Oui, on aurait pu faire ça d'une autre façon, en tenant compte du bon sens des cultivateurs. Et en fin de compte, ici à Plozévé, sur les 2395 hectares remembrés, on a rasé 350 km de talus sur les 370. Quoi. Alors vous voyez un peu les dégâts.
C'est presque la totalité.
Pratiquement la totalité.
Voilà une archive de l'ORTF en 1971, Léo Magnin, avec ce livre « La vie sociale des haies, enquête sur l'écologisation des mœurs » aux éditions de La Découverte. On voit à quel point, on en avait parlé d'ailleurs avec la journaliste Inès Léraud qui a publié une bande dessinée sur le remembrement, à quel point c'était un sujet de polarisation, de crispation, où des villages se sont vraiment détruits, enfin pas détruits, mais en tout cas, il y a eu une décision très forte autour de ce sujet.
Et cette conflictualité, elle n'est pas terminée. Les remembrements ne sont plus la première cause de disparition des haies aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont changé de nom. On appelle ça des AFAF, aménagements fonciers agricoles et forestiers, depuis 20 ans. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des tensions autour des haies, notamment des signalements. Ah, à côté de chez moi, il s'est passé ceci. Des personnes qui appellent leur maire, la police de l'environnement, d'autres types de services, pour dire voilà ce qui se passe, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose. Parfois, c'est des agriculteurs aussi qui se dénoncent mutuellement. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on croit. Encore une fois, c'est pas un face-à-face entre des riverains non agricoles et puis les agriculteurs qui feraient un bloc soudé. Et ça continue d'exister hors du remembrement parce que la grande dynamique, c'est des changements de pratiques agricoles qui renvoient à des grands mouvements de fond démographiques. Comme on le disait tout à l'heure, les éleveurs reculent, donc la prairie recule, et les haies qui entourent ces prairies disparaissent quand, par exemple, deux parcelles qui étaient contiguës et qui appartenaient à deux personnes différentes sont récupérées par une même personne qui va travailler ces deux parcelles et qui donc fait sauter la haie qui est au milieu, la détruit pour avoir une parcelle plus grande.
Alors la haie, c'est aussi devenu un objet de revendication politique, alors que pendant longtemps, ça n'était pas un sujet majeur, vous le rappelez aussi, et on l'a entendu très récemment avec la colère des agriculteurs.
Oui, alors l'année dernière, un des mots d'ordre de la FNSEA, par la voix de son président Arnaud Rousseau, était... Il y a 14 réglementations sur la haie, c'est beaucoup trop, il en faudrait une. Gabriel Attal avait dit qu'il en fallait une. Et là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous me posiez la question de plus on s'intéresse à la haie, est-ce que c'est un signe de s'intéresser davantage à l'agriculture durable en général quand on est agriculteur? Et on voit qu'il peut y avoir parfois une ambiguïté, voire un double jeu, parce que dans le même temps, la FNSEA aussi, avec une filiale qui s'appelle Epiterre, fait de la promotion pour la plantation de haies, pour de la compensation carbone, notamment avec le MEDEF. Donc on voit que tout est dans la question de la manière d'aborder cet objet-là. Est-ce que positivement on dit on en plante ou est-ce qu'on protège aussi déjà les haies qui sont en place? Parce qu'évidemment, une haie qui est plantée aujourd'hui, il faut qu'elle puisse pousser. La sécheresse, le réchauffement climatique n'aide pas. Et conserver les haies ou restaurer les haies qu'on a déjà a un impact environnemental sur le territoire plus important.
Le succès de la haie joue parfois le rôle d'idiot utile. Écrivez-vous.
Oui, parce que planter une haie, ça peut être visible, ça peut être positif. Et d'un autre côté, ça permet aussi de ne pas poser certaines questions, comme l'usage de produits phytosanitaires, par exemple, comme la distribution de la plus-value au sein des chaînes de valeur dans le monde agricole, qui est responsable donc de revenus faibles pour les agriculteurs. On ne pose pas non plus la question de ce qu'on pourrait appeler la démocratie productive. Donc, que produit-on, pour quels besoins en alimentation et par rapport aux défis environnementaux qu'on a aujourd'hui, ce qui fait que ça peut être vu soit comme une barrière, hein, topographiquement, là, et à la marge, et puis symboliquement, politiquement aussi, soit comme une stratégie. Et les personnes qui travaillent dans le domaine, notamment les associations, les chambres d'agriculture, sont toujours un peu entre les deux, en disant c'est une manière aussi d'entrer sur ces sujets environnementaux avec un objet qui bénéficie d'un certain crédit, d'une certaine image positive.
On passe aux questions avec vous, Léo Manien, parce qu'elles sont nombreuses. Alors, il y a énormément de messages, à l'instar de celui de Christine qui nous dit chez moi, on continue de détruire les haies, c'est une catastrophe, mais où les agriculteurs plantent-ils des haies? Alors ça, vous le dites aussi, à quel point on a toujours autant de haies aujourd'hui qui disparaissent, malgré justement 2015, la PAC, etc. Ça ne change pas.
C'est même pire que ça, ça s'aggrave. Les chiffres dont on dispose, c'est avant 2015, on perdait à peu près 10 000 km de haies par an de manière nette, c'est-à-dire réduction faite des plantations qu'on estime à peu près à 3 000 km par an. Et après 2015, là,
c'est le
on
double.
Est sur 20 000, en effet. Donc, le mécanisme est celui que je mentionnais tout à l'heure, c'est plus des grandes opérations d'aménagement foncier, c'est plutôt des changements de pratique, des changements de destination des parcelles, un recul de l'élevage pâturant, et des surfaces toujours plus grandes par un nombre toujours plus petit d'agriculteurs.
Et vous dites, on se préoccupe des haies, mais on ne se pose pas la question de qui s'en occupe. Et ça aussi, ça peut justifier le fait qu'on en arrache toujours autant?
En fait, si on se met à la place d'une exploitante, d'un exploitant agricole aujourd'hui, on voit les choses aussi potentiellement différemment de, de ce qu'on peut voir sans être à sa place. La surface agricole en France est 52% du territoire et elle est travaillée, exploitée par cette catégorie sociale d'agricultrices-agriculteurs qui représente moins de 2% de la population active et ça continue de baisser drastiquement. Et la surface agricole ne baissant pas, mais le nombre d'agriculteurs diminuant, les surfaces à travailler, donc les haies à entretenir potentiellement, sont toujours plus importantes. Une étude en Normandie montre que l'entretien d'un kilomètre de haies par an, ça coûte 450 euros.
Ouais, et alors justement, l'explication, la meilleure explication en tout cas, c'est la question de Conrad pour comprendre le fait qu'on n'arrête pas d'arracher des haies aujourd'hui encore et en très très grand nombre. La meilleure explication, c'est ça ?
C'est cette explication-là, oui, de vraie transformation extrêmement profonde de la démographie agricole et plus largement, puisque ça nous concerne toutes et toutes, de la division sociale du travail, c'est-à-dire de qui fait quoi. Se préoccuper du DS, c'est extrêmement bien. Par contre, cette préoccupation, cette prise de conscience, elle peut être massive. Il n'en demeure pas moins que si le groupe social qui a pour mission est de produire de la nourriture et d'entretenir, voire de restaurer, non pas seulement les haies, mais 52% du territoire dans l'ensemble, n'augmente pas, forcément, les problèmes peuvent continuer.
Christine demande, les haies qui ne sont plus taillées, faute de bras par exemple dans le Morvan, dit-elle, rendent-elles les mêmes services écosystémiques ou pas ?
Alors, controverse intéressante, dans les années 80, une ethnologue qui s'appelle Bernadette Lizet opposait la haie qui est exploitée, travaillée, qui est parfois même une monoculture, elle parle de l'aubépine dans l'Ain, au début du siècle, et la haie du naturaliste, qui est en fait la haie abandonnée, la haie fossile dont on parlait tout à l'heure, qui elle se déploie, il y a des grandes branches parce qu'elle est plus travaillée. Et le naturaliste, normalement, préfère la haie qui est plus large, qui a plusieurs strates, parce qu'elle peut avoir davantage d'animaux qu'elle héberge, bien sûr. Mais il y a un entre-deux à trouver, parce qu'une haie qui n'est pas du tout entretenue et qui ne rend aucun service à long ou à moyen terme, qui n'est pas appropriée dans les pratiques agricoles par la personne qui travaille ce terrain-là, a toutes les chances de disparaître aussi.
Françoise réagit sur l'incohérence politique, le fait qu'effectivement on continue d'arracher des haies et que par ailleurs on subventionne la replantation de haies. Où est la cohérence, demande-t-elle ?
C'est une question qui est là depuis les années 80 au moins et qui se voit dans la politique agricole commune où on a toujours un système où l'essentiel des aides sont destinées à soutenir la production et une toute petite partie des aides à essayer de transformer le modèle. Ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure au journal sur le recul de la part des surfaces en agriculture biologique en France, où on voit que, comme on parlait d'idiot utile tout à l'heure, ça peut être aussi malheureusement des alternatives qui, sans transformer le modèle global, contribuent en fait à son maintien en ayant une offre à la marge pour un certain type de public.
Les terres dédiées au bio qui diminuent et qui représentent 10% des surfaces agricoles alors que la loi fixe un objectif de 21% d'ici 2030, donc c'est dans 5 ans. Et Victoria demande, est-ce que la disparition des haies n'a pas affaibli le sentiment de propriété de la terre de la part des agriculteurs et des agricultrices ?
Je ne sais pas si ça affaiblit le sentiment de propriété de la terre. En revanche, ce qui est toujours prégnant, c'est le fait de dire « je suis chez moi ». En tant qu'exploitant, exploitante, et donc l'État n'a pas à intervenir dans la gestion de ce bien qui est l'emblème historiquement de la propriété privée, chose qu'il faut quand même nuancer, parce qu'aujourd'hui en France, c'est plus des trois quarts des terres qui sont en fermage, c'est-à-dire louées. Donc l'idée de la propriété de la terre, c'est aussi quelque chose qui concerne plus largement que la seule population agricole stricto sensu, parce qu'il y a des propriétaires terriens.
Merci beaucoup Léo Magnien d'être venu nous parler des haies. C'est l'objet de votre ouvrage « La vie sociale des haies, enquête sur l'écologisation des mœurs ». C'est aux éditions de La Découverte. Et merci beaucoup à Anna Massardier qui a préparé ce dossier aujourd'hui. Merci à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt.